Merci beaucoup, Martin. J'espère que la nourriture ne sera pas trop lourde, pour reprendre la phrase de tout à l'heure. Que mangea le Christ après la résurrection? La question peut sembler pour le moins anecdotique, même si l'heure du repas approche. L'important demeure qu'il ait mangé, et c'est bien le point que la plupart des auteurs patristiques ont commenté. Cependant, il n'est pas sans intérêt de mener un petit inventaire, bref, des aliments consommés par le ressuscité et des variantes textuelles à ce sujet. En Matthieu comme en Marc, les choses sont simples, il n'est pas question de repas du ressuscité. Chez Luc et chez Jean, en revanche, les choses sont plus complexes. En Luc 24:30, dans l'épisode d'Emmaüs, il est fait mention du pain pris et rompu, labon ton orton logesen, kai klassas epedidou autois, sans qu'il soit dit que le Christ ait mangé non plus que les disciples, ce qu'il est advenu du pain lorsque le Christ n'a plus été visible à leurs yeux, il n'en est rien dit. En Luc 24, 41-43, Jésus mange du poisson, ça c'est le texte que vous connaissez, et éventuellement du miel, je reviendrai dans un instant sur ce passage, qui sera au cœur de l'étude que je proposerai aujourd'hui. Je souligne simplement le fait que dans le texte lucanien, Jésus demande aux disciples explicitement de lui donner quelque chose à manger. Et qu'était-il brosimon entade? Enfin, en Jean, on trouve une longue description d'un repas matinal au bord du lac, où il n'est cependant pas explicitement dit que Jésus, qui fait ici office de cuisinier, ait mangé lui-même, puisque en Jean 21:9-13, on a une description du feu de braise, du poisson mis à cuire, du pain, du poisson qui est amené par les disciples sortis de la barque, les fameux 153 poissons, et enfin du fait que Jésus prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. La liste des aliments qui ont été explicitement consommés est donc réduite. Du poisson et du pain en Jean, du poisson et éventuellement du miel en Luc. Il faut y ajouter le pain de l'épisode d'Emmaüs, dont on ne sait s'il resta sur la table. La plupart des explications patristiques de ces passages ne s'attardent pas outre mesure sur les aliments consommés, et soulignent surtout, nous y reviendrons, que le Christ a mangé. Il est cependant quelques cas dans lesquels ils ont retenu l'attention des commentateurs. Nous nous arrêterons ici en particulier sur un point qui a en outre l'intérêt, pour notre perversion personnelle du moins, d'être lié d'une part à une variante du texte néo-testamentaire, la mention du rayon de miel en Luc 24:42 en plus du poisson, et d'autre part à la conflation des deux repas principaux de Luc à Jérusalem et de Jean au bord du lac. Après avoir présenté d'abord un rapide état de la question sur la variante de Luc 24:42, je m'arrêterai sur trois textes qui témoignent de l'interprétation en Palestine et en Cappadoce, à la fin du IVe siècle, de cette variante de Luc 24:42, en lien avec un verset du Cantique des Cantiques. Dans un dernier temps, j'examinerai rapidement d'autres témoignages patristiques sur la variante de Luc 24:42, afin de tenter de cerner, sinon son origine et sa date, du moins de la mieux situer dans le temps et l'espace. Luc 24:42 tout d'abord. Il faut dire pour commencer que ce que nous considérons avec nos yeux modernes, académiques et occidentaux, comme une variante du texte biblique, la mention du rayon de miel en plus du poisson grillé, est en fait le texte byzantin reçu et celui de la Vulgate. Vous avez sur votre exemplier, j'espère que vous l'avez, au numéro 1, le texte, ce qui est édité dans l'édition critique. C'est normalement simplement « Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, « Idei pedokan autoictuos optumeros » plus la variante qui suit. Sans entrer dans les détails de l'analyse du fragment d'apparat que vous avez juste au-dessous, on peut proposer les éléments suivants, et je vous prie de m'excuser pour les approximations, ce n'est pas un spécialiste de critique textuelle du Nouveau Testament qui parle. Les versions anciennes, je commencerai par là, globalement, n'ont pas la leçon longue. En syriaque, la mention du miel est absente de la version sinaïtique, probablement milieu quatrième, de même que de la version copte-saïdique, qu'on date généralement du IIIe siècle. Du côté latin, l'attestation est plus fluctuante. La version longue est globalement présente dans les manuscrits des vieilles latines rattachées à l'Itala, mais pas dans le Palatinus ni dans le Codex de Bèze. En l'absence de citation ancienne du verset du côté latin, il n'est pas possible de reconstituer sa forme ou ses formes avec plus de sûreté. En revanche, dans les versions un peu plus tardives, syriaque curtonienne, peshitta et arcléenne, vulgate, dans une partie de la tradition copte-bohairique, on trouve la leçon longue avec la mention non plus seulement du poisson, mais aussi du miel. Du côté des témoins grecs, la situation est à peu près similaire. La forme courte est donnée par le papyrus 75 et les grands onciaux, plus largement par les témoins du texte alexandrin, tandis que les témoins du texte césaréen et byzantin ont la forme longue. Vous ne le voyez peut-être pas complètement dans l'apparat tel qu'il est présenté là, mais en fait, l'immense majorité des témoins du Nouveau Testament ont cette forme longue. Depuis quand cette version longue du verset est-elle attestée? On a parfois voulu voir dans un passage de Clément d'Alexandrie qui cite le verset puis parle du miel, un témoignage de ce que Clément connaissait cette leçon. Cependant, un examen même sommaire du texte suffit à convaincre du contraire, et c'est l'exemple 11 sur votre exemplier, le dernier. Mais ne croyez pas vous en tirer ainsi, je reviendrai après à ceux qui précèdent. C'est pourquoi il faut se garder des aliments qui, sans que nous ayons faim, nous induisent à manger parce qu'ils enchantent notre appétit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans une simplicité modérée, une saine variété de nourriture? Des oignons, des olives, quelques légumes, du lait, du fromage, des fruits, divers aliments cuits sans sauce. Et s'il faut de la viande rôtie ou bouillie, qu'on en donne. « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» dit le Seigneur à ses disciples après la résurrection. Ceux-ci, parce qu'il leur avait appris à pratiquer la simplicité, lui donnèrent un morceau de poisson rôti. Et lui, tout en mangeant sous leurs yeux, leur dit les paroles qui sont dans Luc. En outre, il ne faut pas laisser sans dessert ni miel ceux qui prennent leur repas de façon raisonnable. Je ne préjuge pas de ce que nous mangerons tout à l'heure. La citation de Luc 24, 42 dans le texte de Clément se termine clairement en l'absence de la mention du miel. Hein? Un morceau de poisson rôti, et lui, tout en mangeant sous leurs yeux, leur dit. Il n'est question de miel, et non de rayon de miel, que dans un dernier temps, lorsque sont évoquées les douceurs qui terminent normalement le repas. La citation évangélique ne vient qu'appuyer la description du plat principal et même de l'une de ses variantes lorsque l'on fait griller le plat sur le modèle du repas du ressuscité, modèle parfait et accompli de la nourriture convenablement mesurée. Les autres attestations anciennes qui ont été proposées, en particulier un passage de Tertullien dans le De Corona 14.4, Ad quin et favos post fela gustavit, ne paraît pas convaincante. Il ne s'agit en aucun cas d'une citation du verset lucanien, mais d'une simple reprise de l'opposition entre fiel et miel, avec un jeu de sonorité qui vient renforcer le jeu sémantique. En effet, au fiel de la passion s'oppose le miel de la résurrection. Mais ce miel a-t-il à voir avec la variante lucanienne? L'introduction de la mention du miel dans le texte de Luc est généralement lue comme une allusion à une pratique post-baptismale assez bien attestée, et ce très tôt. Aux nouveaux baptisés étaient offerts du lait et du miel, signe de leur entrée dans la nouvelle terre promise. Cependant, il n'est pas question de lait dans la variante lucanienne, mais seulement de miel, et ce miel est associé à du poisson. S'il y a un lien de la variante avec la pratique liturgique, il est pour le moins restreint et indirect. Il vaudrait peut-être mieux chercher ailleurs la source de la variante. Qu'en est-il en revanche des textes, en particulier latins, qui associent ou plutôt font se succéder fiel et miel? Il semble qu'il s'agit là d'une interprétation qui pourrait dériver du même contexte que le précédent. Au fiel de la passion, Matthieu 27, 34, répond le miel, jeu de mots sensibles en latin uniquement. Le fiel en grec c'est kolé, pas grand-chose à voir avec le miel. Mais une telle opposition joue essentiellement sur une reprise des contraires, lait et miel de la terre promise correspondant en opposé au vinaigre et au fiel de la passion. Dans tous ces cas, jamais Luc 24-42 n'est cité ou même mentionné. Il ne faut donc pas voir dans les mentions du miel en lien avec la résurrection une allusion automatique à Luc 24-42. Au contraire, ce n'est généralement pas le cas. Cependant, et j'en viens à ma deuxième partie, il est des cas rares où le miel et le lait sont explicitement rapprochés de Luc 24-42. Il s'agit de quatre textes, deux de Cyrille de Jérusalem et les deux autres de Grégoire de Nice. Le premier est une catéchèse baptismale de Cyrille de Jérusalem, qui peut être située dans les années 350. Cyril y présente une exégèse typologique de l'Ancien Testament en lien avec la passion et la résurrection du Christ. Si une telle démarche est courante dans la littérature patristique, il est en effet beaucoup plus rare d'utiliser dans ce cadre le Cantique des Cantiques, comme le fait ici largement Cyril. Dans la Catéchèse 14, paragraphe 11, l'évêque de Jérusalem applique stick par stick Cantique 5.1 à la mort et à la résurrection du Christ. Vous avez le verset du Cantique sous les yeux, exemple 2. Je vous en donne rapidement une traduction. « Je suis entré dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai récolté ma myrrhe avec mes aromates. J'ai mangé mon pain avec mon miel. J'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, mes proches, buvez et enivrez-vous, mes frères. » Partant de la mention du jardin, rapproché de la tombe, Cyril relie ensuite Cantique 5.1b et Cantique 4.14, myrrhe et aloès et tous les principaux aromates, en faisant un type de Nicodème et des femmes agissant pour l'ensevelissement du Christ. Cantique 5.1.CE est ensuite expliqué en lien avec les apparitions et les repas du ressuscité. La forme longue de Luc 24.42 permet d'introduire le miel, mais pas le pain, qui n'est pas repris par Cyril. On relèvera en revanche, dans la ligne des éléments suggérés plus haut sur le rapport entre miel et fiel, l'affirmation de Cyril sur la succession de l'amer avant la passion et du doux après la résurrection. C'est le texte 3 sur votre exemplier dont je vous donne une traduction. Et que dira celui qui est enterré dans le jardin ? J'ai récolté ma myrrhe avec mes aromates, Cantique 5.1. Et encore, myrrhe et aloès avec tous les principaux aromates, Cantique 4.14. Voilà les symboles de l'ensevelissement. Et dans les évangiles, il est dit, les femmes vinrent au tombeau apportant les aromates qu'elles avaient préparées, Luc 24.1, et Nicodème apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, Jean 19.39. Et à la suite, il est écrit, j'ai mangé mon pain avec mon miel, Cantique 5.1c. L'amer avant la passion et le doux après la résurrection. Puis une fois ressuscité, il entra par les portes fermées, mais ils ne le croyaient pas, car ils pensaient voir un esprit, Luc 24.37. « Mais touchez-moi, dit-il, et voyez, Luc 24.39. Mettez les doigts dans les marques des clous, comme le demandait Thomas. » Tiens, Jean 20.25 vient interrompre le récit lucanien. Et comme ils ne croyaient pas encore, de joie et s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et un rayon de miel. « Tu vois comment est accompli, j'ai mangé mon pain avec mon miel, Cantique 5.1c. » On retrouve la même exégèse dans l'homélie sur le paralytique du même Cyril qui dépend directement de la catéchèse 14 pour cette section et n'apporte aucun élément nouveau. Il semble donc que ce soit Cyril de Jérusalem qui est le premier proposé de rapprocher Cantique 5.1 et Jean 24.42, sans s'arrêter toutefois à l'écart entre pain du côté du Cantique et poisson du côté de Luc. C'est le miel ici qui l'intéresse et il reprend l'opposition que nous avons vue du côté latin entre amertume et douceur, passion et résurrection. En outre, dans ce passage, Cyril rapproche plusieurs épisodes venant tant de Luc que de Jean. Mais le rapprochement entre les récits évangéliques se fait non pour les repas, mais pour le toucher avec l'ajout du Thomas de Jean au fil principal qui reste lucanien. Quelles sont les sources de Cyril pour ce passage ? Il ne semble pas qu'elles aient pu être repérées jusqu'à présent. On notera simplement que dans la seule citation de Luc 24.42 que l'on trouve dans l'œuvre conservée d'Origène, celui-ci emploie la forme courte, de même que Zeb de Césarée. Ce ne serait donc pas dans cette direction habituelle qu'il faudrait chercher les sources de Cyril. On retrouve un tel rapprochement entre Cantique 5.1 et Luc 24.42 forme longue chez Grégoire, évêque de Nice, actif dans le dernier tiers du IVe siècle. Parmi ses dernières œuvres figure un commentaire du Cantique des Cantiques sous forme d'une série homilétique, que l'on peut dater avec une relative certitude après 391, du fait des circonstances de la dédicace à Olympias, la célèbre diaconesse de Constantinople, chère à Chrysostome. Dans la dixième homélie, lorsqu'il explique Cantique 5.1, Grégoire rapproche myrrhe et aromates de la vie de purification. Cantique 5.1c correspond ensuite à un niveau de nourriture plus parfait qui est rapproché du repas proposé par les disciples à Jésus après sa résurrection, du pain et du miel. Enfin, Grégoire oppose Cantique 5.1d, lait et vin, au vinaigre et au fiel de la passion. Texte 4 de votre exemplier. Au bienheureux jardin, ceux-là dont les plantes produisent, ainsi qu'il est attesté, des fruits capables de se transformer en toute espèce de délice en s'accommodant aux désirs de ceux qui en jouissent. En effet, pour celui qui fait ses délices de l'agréable odeur, ces plantes deviennent une myrrhe avec des aromates, car elles exhalent, grâce à la mortification des membres terrestres, Colossiens 3.5, une vie pure et odoriférante, qui est un mélange des aromates variés et divers de la vertu. Mais pour celui qui cherche une nourriture plus parfaite, les plantes en question deviennent du pain. Non plus un pain qui se mange avec des herbes amères, comme le prescrit la loi, Exode 12.8, car c'est pour le présent qu'est l'amertume, mais un pain qui s'agrémentera lui-même de miel, lorsqu'en sentant le fruit de la vertu délectera les sens de l'âme. C'est ce que montre le pain qui fut mis sous les yeux des disciples, agrémenté d'un rayon de miel après la résurrection du Seigneur. Conflation de Jean 21.9 et de Luc 24.42 long. Et pour celui qui a soif, les plantes du jardin deviennent un cratère rempli de vin et de lait, et non une éponge imprégnée de fiel et de vinaigre, telle que celle que les Juifs présentèrent à leur bienfaiteur au moyen d'un roseau, comme pour lui porter une santé. Grégoire continue, « Nous n'ignorons aucunement le symbolisme de ces paroles. Comment Paul était un arbre porteur de myrrhe, lui qui mourait chaque jour, 1 Corinthiens 15-31, qui rendait lui-même contre lui-même la sentence de mort, 2 Corinthiens 1-9, et qui, en répandant un arôme de pureté et d'impassibilité, devenait une odeur de vie pour ceux qui étaient sauvés, 2 Corinthiens 2-15-16. Comment les plantes animées du jardin produisent du pain pour le maître du jardin, ces plantes auxquelles rend témoignage celui qui est assis sur son trône en leur disant « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger » Matthieu 25-35. Car la bienfaisance est un pain de joie agrémenté du miel du précepte, psaume 18-9-11. Comment encore les plantes élancées du jardin versent du vin à l'époux, ces plantes auxquelles il dit « J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire » Matthieu 25-35, en mêlant le vin avec le lait, et non avec l'eau selon la coutume des cabaretiers. Or le lait est le premier aliment de la nature humaine, aliment pur, simple, vraiment adapté aux petits-enfants, exempt de fraude et purifié de toute intention perverse. Pardonnez cette longue citation. Il semble donc que pour expliquer Cantique 5, 1c, Grégoire reprenne et corrige l'explication de Cyrille de Jérusalem. En substituant tacitement au poisson évangélique, qui ne correspond pas au texte de Cantique 5.1, le pain. Une telle démarche reposerait donc tacitement sur une fusion entre les aliments du bord du lac en Jean 21. Pain et poisson, et ceux du repas à Jérusalem en Luc 24, poisson et miel. Le poisson, mis en facteur commun pour ainsi dire, disparaîtrait donc, faute de correspondant dans le texte du Cantique. En outre, la rapide allusion cyrillienne à l'opposition entre amertume et douceur est ici reprise et développée avec entre autres un appui sur Exode 12.8. Il faut enfin introduire un deuxième texte nicéen qui nous rapproche par un autre biais du texte de Cyrille de Jérusalem. Ce sera l'exemple 5 sur votre exemple. Il s'agit en effet cette fois non d'un commentaire du Cantique mais d'un discours prononcé pour la Pâque qui porte pour l'essentiel sur la question de l'intervalle entre la mort et la résurrection du Christ. Ce texte, qui a été prononcé pendant la vigile de la nuit pascale, doit être situé lui aussi assez tard dans la production nicéenne, probablement dans les mêmes années que les homélies sur le Cantique. À la fin du discours, Grégoire introduit assez brusquement l'événement de la résurrection et le décrit avec des mots et des images tirés des évangiles, en une sorte de senton qui ne reflète exactement aucun modèle évangélique, mais recompose librement le récit à partir des différents évangiles. Le dernier paragraphe du texte introduit plus proprement les auditeurs à l'Eucharistie. Cette transition est élaborée avec soin afin de lier les espèces eucharistiques aux éléments de la Pâque juive, en particulier pain sans levain et herbes amères, dont Grégoire venait de faire longuement l'exégèse dans la dernière partie du discours qui précède immédiatement la conclusion dont je vous parle. Voici le fragment qui nous intéresse aujourd'hui. Mais puisque le pain sans levain d'avant la Pâque a comme accompagnement les herbes amères, cherchons par quel assaisonnement adoucir le pain d'après la résurrection. Tu vois, tandis que Pierre est à la pêche, dans les mains du Seigneur, du pain et un rayon de miel. Jean 21 plus Luc 24. Pense en quoi se transforme pour toi l'amertume de la vie. Ainsi donc, nous relevant nous aussi de la pêche des paroles divines, courons maintenant vers le pain, qu'emplit de sa douceur le rayon de miel de la joyeuse espérance dans le Christ Jésus notre Seigneur. À lui la gloire et la puissance, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous voyez qu'on est bien à la fin du discours. Cette fois, contrairement à ce qui se passait dans les homélies sur le cantique, l'intégration dans l'épisode de Jean 21 est explicite, puisqu'il est bien question, hein, de Pierre qui est à la pêche. Ça, en Luc 24, ce serait compliqué. Cantique 5, 1c, en revanche, a disparu. Nous nous trouvons donc dans la situation symétrique à la précédente. Le cadre principal est celui de la pêche au bord du lac, non du repas à Jérusalem, de Jean, non de Luc. Cantique 5.1 n'est pas explicitement présent, même si le verset du cantique soutient le rapprochement. L'insertion liturgique est-elle explicite, puisque Grégoire invite à passer de la pêche des paroles divines, liturgie de la parole, au pain eucharistique. On retrouve toutefois la transition de l'amertume du récit de l'Exode à la douceur de la Pâque chrétienne. Ici, l'évêque avait besoin de pain et de miel pour répondre au pain et aux herbes amères de la Pâque juive qu'il avait évoquée précédemment. Il avait également besoin de pain pour faire la transition avec le repas eucharistique. Ici, la variante de Luc 24-42 est donc déplacée en Jean 21, pour ainsi dire, et introduite dans un contexte général similaire, un repas du Christ ressuscité, mais différent formellement. Ce déplacement permet en outre à Grégoire d'améliorer l'adéquation proposée par Cyrille de Jérusalem entre Cantique 5-1c, pain et miel, et repas du ressuscité, au prix d'une conflation des deux repas. On relèvera enfin que les deux textes de Grégoire marquent l'un et l'autre leur filiation à la catéchèse de Cyrille, l'un par l'intermédiaire du verset du cantique, l'autre par le contexte pascal et baptismal du discours. Je laisserai ouverte la question de l'ordre chronologique des deux textes nicéens. Lequel est premier des homélies sur le cantique, qui reprennent cantique 1.5 et la référence à Luc, ou du De Triduis Passio, qui reprend le contexte pascal et le pain? Qu'en est-il des autres témoins patristiques de Luc 24, 42, forme longue? Ce sera ma dernière partie qui, je vous le rassure, sera beaucoup plus brève, à défaut de former un véritable dessert. Je ne suis pas tout à fait assuré de sa douceur. Ils ne sont pas très nombreux dans le monde grec, davantage dans le monde latin, mais je ne me risquerai pas trop sur ce terrain, de peur de manquer des portes ouvertes. Plus savants, et en particulier plus savantes que moi, me corrigeront au besoin. Surtout aucun dans le monde grec ne fait un usage explicite du miel. Aucun autre que les textes cités ne rapproche le verset du cantique. La plupart des citations de la forme longue se trouvent dans le contexte des discussions sur la corporéité de la résurrection du Christ. On le trouve par exemple chez Épiphane de Salamine dans la notice du Panarion dirigée contre les Manichéens. C'est le texte 6 que vous avez sur votre exemplier. On le trouve également chez Amphilogue d'Iconium dans son traité contre les incratites, donc une décennie ou une décennie et demie plus tard, le texte 7, ou encore chez Cyrille d'Alexandrie dans son commentaire sur Jean, c'est le texte 9 que vous avez dans votre exemplier. Dans chacun de ces textes, il est bien question du repas avec la mention du poisson grillé et du miel, mais aucun des auteurs ne commente la présence du miel. Vous pouvez regarder en particulier le texte de Cyrille, qui commente explicitement le fait qu'il ait mangé du poisson, qu'on lui ait donné du poisson, « Catede docegart procomisten ictudion, et toito exotumeros » au moins un morceau. Mais le miel n'apparaît absolument plus dans l'explication. Ce sont cependant des textes de datation plus difficiles qui retiendront ici brièvement mon intérêt. En effet, on retrouve la forme longue dans le quatrième discours contre les Ariens, pseudo-Athanase, dans un passage contre Paul de Samosate. Or, les études sur ce texte, en particulier l'ouvrage de Marcus Vincent, suggèrent de situer la rédaction du texte peu avant 340, dans le contexte d'une tentative de rapprocher les positions d'Eusèbe et de Marcel d'Ancyre. Vincent suggère d'attribuer le texte à Apollinaire, sans que cette attribution ait été pour autant considérée comme acquise. Mais si la datation au moins est juste, il s'agirait sans doute du premier témoin patristique de la forme longue. Vous avez le texte, c'est le texte 8, et vous verrez, si vous avez la curiosité de regarder un peu, qu'encore une fois, le verset est bien cité dans cette forme-là, mais on ne fait rien du miel. L'autre texte, qui est cité comme témoignage de cette variante, provient du traité du pseudo-Justin sur la résurrection. C'est l'exemple 10 sur votre exemplier, et votre soulagement doit commencer à croître, puisque le texte 11, vous m'avez déjà entendu le commenter. Or, ce texte du pseudo-Justin, non seulement est un pseudo, mais ne nous est en plus connu que de manière fragmentaire, par l'intermédiaire de florilèges bien plus tardifs, en particulier les hiéras, traditionnellement attribués à Jean Damascène. Le texte évangélique n'y est pas cité, mais paraphrasé, d'une manière qui paraît exclure une interpolation postérieure à partir du texte byzantin reçu, puisque le premier réflexe, c'est de dire, bah oui, mais s'il ne commente pas, comme c'est le cas ici, l'ajout d'un rayon de miel peut être un ajout de copiste beaucoup plus tardif. Mais ici, si vous regardez comment c'est formulé, « Tialeto somaticos aneste », qu'il soit ressuscité de manière véritable dans son corps, « Caiephage kerion caictun », et « mangea du un rayon de miel et du poisson, caiutos epidexas, etc. » Donc, il y a reformulation avec le miel qui passe d'abord. Donc, visiblement, là, personne n'a été trafiqué. Ce petit morceau de texte-là, ce serait pour le moins surprenant. Cependant, étant donné l'incertitude sur l'origine et la datation du texte, sur les modalités de sa transmission, et la multitude d'hypothèses émises à cet égard, pour cette œuvre fragmentaire du pseudo-Justin. Il est difficile d'utiliser ce témoignage isolé pour préciser l'origine tant chronologique que géographique de la variante. Au terme de cette brève enquête, trop longue je sais déjà, il apparaît donc que la forme longue de Luc 24-42 n'est pas attestée de manière sûre, hors le texte du pseudo-Justin, avant le deuxième tiers du IVe siècle. En outre, ses premières attestations se trouvent en Syrie-Palestine et en Asie mineure. L'explication de cette forme du texte est rare à la période patristique, en particulier dans le monde grec. Lorsqu'elle existe, et ce, seulement chez Cyrille de Jérusalem et Grégoire de Nice, à ma connaissance, elle s'appuie sur un rapprochement avec Cantique 5.1c qui mentionne pain et miel. Elle est en outre motivée par une opposition plus courante entre l'amertume de la passion, soutenue par la mention du vin mêlé de fiel proposé à Jésus avant sa mise en croix, et la douceur de la résurrection. Cette opposition est présentée de manière typologique, en lien avec l'opposition vétérotestamentaire entre les herbes amères du repas pascal et le lait et le miel de la terre promise. En revanche, aucun lien n'est explicitement présent avec la pratique qui consistait à donner du lait et du miel aux nouveaux baptisés. Au contraire, dans le discours pascal de Grégoire de Nice, prononcé pendant la vigile, au moment des baptêmes, c'est du pain eucharistique que sont rapprochés pain et miel. Alors même que Grégoire connaît cette pratique liturgique et la mentionne par ailleurs, celle du pain et du miel, du lait et du miel. Il semble donc que la mention du miel aux côtés du poisson grillé en Luc 24-42 ne provient pas d'une pratique liturgique, mais constitue une variante lucanienne, d'origine encore inexpliquée, qui apparaît assez largement dans le courant du IVe siècle, mais qui peut bien lui être antérieure. Si, culinairement, son origine est compréhensible, du poisson avec une sauce au miel, ce ne sont peut-être pas vos goûts, mais c'est assez courant, ses origines réelles restent obscures. Elle n'a que rarement retenu l'attention des exégètes antiques, peut-être parce qu'elle leur paraissait plus anodine qu'à nous. Je vous remercie.